Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons de nous avoir réunis ce matin. Nous te bénissons pour ton appel et ta présence en nous qui nous guide et qui nous éclaire. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes une part généreuse de ton Esprit Saint pour que nous puissions entendre ta parole, mais aussi la laisser pénétrer au plus profond de notre être. Seigneur, que nous nous laissions transformer par cette parole, que nous ayons envie de la lire, de la méditer, de passer du temps dans ta présence, que nous ayons envie d'accorder nos volontés à la tienne. Seigneur, nous te prions pour que nous diminuions et que toi tu grandisses en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, je n'étais pas là, mais j'ai fait mes petites recherches. Le pasteur Charles Nicolas a conduit l'Assemblée à réfléchir à comment marcher dans ce monde. Comment, en tant que chrétien, se positionner au sein d'une société déchristianisée. Et merci à Daniel qui met les messages sur le site. J'ai pu savoir que son message s'intitulait « Seul dans un monde païen ». Dans la continuité de ce message et pour poursuivre notre réflexion sur ce que le Seigneur attend de nous, l'attitude qu'il attend de nous, je vous invite ce matin à lire un tout petit psaume, le psaume 15, qui était un des textes proposés pour ce jour. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et il ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Quand on regarde les titres qui ont été apposés plus tard en tête de chapitre dans nos Bibles, titre qui varie d'ailleurs beaucoup selon les traductions qu'on regarde. On trouve pour ce psaume 15 dans la traduction second 21 le titre « Portrait du juste ». Et je trouve que ce texte finalement fait écho à tout ce qu'on a vécu au mois d'août. Il fait écho à la prédication du pasteur Samuel Cabot du 11 août. J'étais pas là non plus, mais j'ai aussi fait mes recherches. Sur comment garder notre nature de chrétien. Même en déportation comme Daniel. Et enfin, je crois qu'il est aussi en lien avec ma prédication du 4 août sur la question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» notamment avec le sujet de l'intégrité et de la vérité. Alors, en seulement 5 versets, beaucoup d'exhortations et d'enseignements pratiques nous sont donnés dans ce psaume. Il nous appartient ce matin de les entendre et de les appliquer à notre propre vie. Et ça, c'est chacun pour soi qui peut le faire. Les appliquer à notre propre vie dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, avec les défis auxquels nous sommes confrontés. Ce texte nous parle finalement de notre marche chrétienne. Et je vous propose 3 points pour l'aborder. La source de cette marche, les détails pratiques de la marche et son but. Alors, premier point, la source. Avec une première question, pourquoi devrait-on être différent des autres? Ou qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Pourquoi ne pourrait-on pas vivre comme tout le monde? D'autant que si l'on en croit certains, la foi est une affaire privée qui ne doit ni se voir, ni se savoir. Alors un chrétien devrait être juste, un humain normal qui a la foi. Vous l'avez entendu, chaque dimanche de ce mois d'août, ça c'est un mensonge. Un chrétien n'est pas juste un humain qui a la foi. La nature du chrétien est différente. Son identité est différente. Et donc sa vie tout entière est différente. En tout cas, elle devrait l'être, et elle devrait l'être de manière visible et tangible pour ceux qu'il est amené à côtoyer. Le chrétien ne s'appartient pas à lui-même. Il a cessé d'appartenir au diable et au monde parce que Christ l'en a arraché. C'est comme ça que l'Écriture le décrit. Christ nous a rachetés pour lui. Alors certes, nous sommes toujours dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons déjà au royaume. Nous sommes citoyens d'une autre patrie, dit l'apôtre Paul. Ça a été rappelé ce matin. Alors, vous n'avez pas les photocopies aujourd'hui, mais vous les aurez. Je vous ai mis beaucoup de références bibliques qui lient les idées entre elles. Nous trouvons finalement cette idée de patrie quelque part au premier verset de notre psaume, quand David dit « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Il s'agit finalement, pour parler de la source de notre marche chrétienne, il nous faut parler de la présence de Dieu. Voilà ce qui change tout. Voilà ce qui nous interdit, quelque part, d'être comme tout le monde. Dieu a dressé sa tente au milieu de nous. Le texte dit « il a tabernaclé ». C'est un verbe qui n'existe pas, mais il a mis sa tente, il a planté les piquets au milieu de nous. Il est descendu en son Fils, habité parmi nous. C'est le sens du nom Emmanuel. Il est présent non seulement quand nous sommes rassemblés en son nom, comme aujourd'hui, mais aussi dans chacun de nos cœurs individuellement, par le ministère de l'Esprit-Saint. Je ne sais pas si on réalise toujours que Dieu habite en nous. Et ça va plus loin puisque Dieu nous invite également à demeurer en lui. Ça n'est pas à sens unique, Dieu qui habite en nous et puis c'est tout. Non. Nous, nous sommes aussi appelés à rester en Dieu, à rester attachés à lui, à veiller, si on reprend la parabole du cep et des sarments, à ne pas empêcher la circulation de la sève depuis le cep qu'est Jésus jusqu'au sarment que nous sommes. Et souvent, on met plein d'obstacles qui font que la sève circule quand même assez mal. Et en fait, c'est seulement par cette proximité, par cet attachement-là, que nous pouvons réellement être ce que Dieu dit de nous, c'est-à-dire ses fils et ses filles. Notre nature, notre identité, comme aussi notre marche, dépendent de notre source, c'est-à-dire de notre attachement à Dieu, le fait de séjourner dans sa tente, d'habiter sa montagne sainte, bref, de demeurer en lui comme lui demeure en nous. Et Christ, dans cette même parabole du cep et des sarments, rappelle que sans lui, nous ne pouvons rien faire. À la limite, ça devrait presque être une raison suffisante de nous attacher à Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce qui sous-entend que si nous demeurons en lui, alors nous pouvons faire des choses. Alors nous sommes rendus capables de marcher comme lui a marché, comme Christ a marché, de vivre en témoin de sa grâce, de lui ressembler finalement. Alors voyons maintenant quelques détails de cette marche chrétienne. Les détails pratiques se trouvent dans les versets 2 à 5 et pourraient se résumer avec trois mots, me semble-t-il. Trois notions qu'on trouve au verset 2, un peu comme un titre ou un préambule de ce qui suit. Ce sont les mots d'intégrité, de justice et de vérité. Trois notions dont l'utilisation tend un peu à disparaître quand même aujourd'hui. Ou en tout cas, dont le sens est régulièrement tordu. Hein, c'est... Finalement, on leur fait dire un peu ce qu'on veut à ces notions. Alors si on les regarde, on pourrait définir l'intégrité par une honnêteté pleine et entière. Quelqu'un d'intègre ne se laisse pas corrompre, par exemple. C'est parfois plus facile de dire ce que ça n'est pas que ce que c'est. Quelqu'un d'intègre ne se laisse pas corrompre. Et marcher dans l'intégrité, ça a donc à voir avec les nombreux versets où Dieu nous demande d'avoir un cœur entier, un cœur non partagé. On retrouve cette idée dans le message à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, avec cette tiédeur rédhibitoire, hein, qui est l'inverse de l'intégrité finalement. Être tiède, c'est l'inverse de l'intégrité. Donc marcher dans l'intégrité, c'est être droit, être honnête, refuser les compromis, ne pas faire de mauvaises alliances, ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs, ne pas s'associer à ce qui déplaît à Dieu ou le méprise. Mais aussi, dans le sens positif, c'est honorer Dieu et ceux qui se réclament de lui. C'est tenir parole quand on fait une promesse ou un serment. Pratiquer la justice, ensuite, c'est aussi un thème largement développé dans la Bible. D'abord parce que Dieu aime la justice. C'est dit comme ça dans la Bible. En tout cas, dans un chapitre du prophète Ésaïe. Dieu aime la justice. La justice est l'un de ses attributs. Et pratiquer la justice, ça a à voir, je crois, avec l'amour qu'on est appelé à manifester. L'amour pour Dieu d'abord, évidemment, mais aussi l'amour du prochain comme soi-même. Et les nombreux versets où Dieu nous demande de pratiquer la justice sont en grande majorité liés à notre attitude vis-à-vis du prochain. Alors évidemment, la justice n'est pas la même chose que l'amour, on est d'accord là-dessus, hein, c'est pas exactement la même chose. Mais en revanche, le fait d'aimer Dieu, parce que lui nous a aimés le premier, et le fait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça devrait nous conduire automatiquement à pratiquer la justice envers lui. C'est ce que développe l'apôtre Jean dans ses épîtres, par exemple. Si nous aimons Dieu, nous aimons nos frères. Si nous aimons nos frères, nous agissons de telle et telle façon. Notamment 1 Jean, les chapitres 3 et 4. Et cette justice à laquelle on est appelé, ça n'est pas une justice sociale à bon marché. Un peu comme nous la vendent les politiciens. Mais c'est une justice exigeante. C'est une justice qui ne se réjouit pas du mal, mais qui se réjouit de la vérité. Tout comme l'amour dont elle se réclame. Dieu est amour et justice, nous sommes appelés à lui ressembler, en demeurant en lui et en le laissant petit à petit transformer nos pensées et nos volontés. C'est l'idée développée ce matin dans la première partie de notre culte. Laisser Dieu transformer nos pensées, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts parce qu'on se dit, tiens, aujourd'hui, Seigneur, transforme tout et puis c'est bon. Non. Mais il faut quand même avoir envie que ce cheminement, ce processus se fasse. La troisième notion, c'est la vérité. Le fait de dire ce que l'on pense. Et début août, on a parlé de vérité avec cette question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» En se rappelant qu'on pouvait dire beaucoup de choses fausses sur Jésus ou sur qui est Dieu, même sans prononcer un seul mot parfois, juste par nos réactions. Parce que les gens nous regardent, nous observent, ils analysent nos façons de réagir. Et en général, quand on fait quelque chose qui est en décalage, ils ne nous loupent pas pour dire « Je croyais que tu étais chrétien. » Nous sommes appelés à rechercher la vérité, à l'aimer, à la défendre, à la présenter, à la proclamer même, à en être les témoins dans ce monde, d'autant plus que c'est un monde où règne le prince du mensonge. C'est d'autant plus important de dire la vérité. Et dire la vérité, ça a aussi à voir avec l'amour, évidemment. Tout à l'heure, j'ai cité 1 Corinthiens 13 et on peut penser aussi à Éphésiens 4, verset 15, qui nous dit de dire la vérité dans l'amour. Il s'agit de dire la vérité sur Dieu. Ça, c'est notre témoignage. Mais aussi de dire la vérité sur l'homme. Et là, il y a des choses à dire quand même. À l'inverse de l'humanisme qui règne tout autour de nous, la Bible nous apprend que l'homme n'est pas bon en lui-même. Là, on aurait envie de dire que l'homme est bon. Ben non. L'homme n'est pas bon. Il est perdu. L'apôtre Paul aux Romains nous dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Voilà la vérité sur l'homme. La Bible nous apprend aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la vérité. Voilà la bonne nouvelle qu'il nous appartient de partager. L'homme est perdu, première chose qu'on devrait dire. Mais par amour, Dieu trouve la solution à sa misère. Il le sauve, il le réconcilie par l'œuvre accomplie en Jésus-Christ, par sa mort à la croix et par sa résurrection. Aucun besoin de mérite personnel. Pas besoin d'attendre d'en être digne, s'être d'abord un peu nettoyé et puis venir à Dieu en disant « Tu vois, là c'est pas mal, accepte-moi. » Non, il suffit de reconnaître son état de péché et de venir à Dieu dans la repentance et la foi en son Fils, Jésus-Christ. Mais dire la vérité, c'est aussi ne pas dire de mensonge. Alors là, vous vous dites peut-être, ça y est, elle nous prend pour des enfants. C'est évident, dire la vérité, c'est ne pas dire de mensonge. Mais le psaume 15 nous appelle à regarder la vérité sous l'angle de ce qu'il ne faut pas dire aussi. Et pas seulement de ce qu'il faut dire. Le verset 3 nous parle de calomnie, de langue. Là, je vous renvoie à Jacques aussi. Hein, de déshonneur sur le prochain. Ainsi, dire la vérité, c'est aussi rejeter la calomnie, s'éloigner du mensonge, détester les ragots et les rumeurs, parce que cela ne plaît pas à Dieu, parce que ça ne convient pas à un enfant de Dieu. Quel témoignage aurons-nous si nous nous prêtons à ce genre d'exercice, si nous faisons, pensons et disons comme tout le monde, si nous sommes incapables de nous censurer ou de nous brider à cause de l'obéissance et de l'honneur que nous devons à Dieu. Et là, vous conviendrez avec moi que c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est beaucoup plus insidieux. Combien on tombe facilement dans ce piège de prêter l'oreille, voire la langue, au ragot. Et le plus grave, c'est qu'on y tombe même au sein du peuple de Dieu. Il ne doit pas en être ainsi. Mes amis, tout comme le compromis, la calomnie et la médisance n'ont pas de place parmi nous. Il nous faut être repris, je crois, sur ce terrain de la vérité, comme aussi sur celui de la justice et de l'intégrité. Il nous faut veiller sur nos cœurs, sur nos paroles, sur nos pensées. Et pour cela, le pasteur Cabot le dit souvent, il faut nous nourrir correctement. Alors, ce n'est pas les 5 fruits et légumes, hein, mais quand même, c'est l'idée. Ça veut dire qu'il nous faut passer du temps dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu, de passer du temps dans l'adoration, dans la contemplation de ce qu'il fait. Nous avons besoin de passer du temps dans la lecture de la Bible et dans la prière. Si nous voulons ressembler à Jésus, il n'y a pas d'autre solution. Ressembler à Jésus, lui qui marche devant nous et qui nous invite régulièrement à le suivre, hein, « Suis-moi ». Voilà un exemple de marche chrétienne qui nous est proposé dans ce psaume. Évidemment, ça ne couvre pas l'entièreté de ce qu'est la marche chrétienne. Mais c'est une marche pratique qui nous est proposée ici et qui est facile à retenir avec 3 notions. L'intégrité, la justice et la vérité. Et même si ce n'est pas complet, il y a déjà pas mal de boulot. Hein. Alors nous savons pourquoi nous devons marcher ainsi, parce que nous appartenons au Seigneur. Voilà pourquoi. Nous savons comment y parvenir en demeurant en lui. Voyons maintenant le résultat ou le but de cette marche. Le but nous est présenté dans les tout derniers mots du psaume. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé ou ne chancellera pas dans la version que j'ai lue. Évidemment, il s'agit d'imiter Christ, de lui ressembler, d'atteindre à sa stature parfaite. En bref, il s'agit de devenir des chrétiens matures, équilibrés, stable, capable de discerner le bien du mal, capable de choisir la vie et non la mort. Il s'agit de ne plus être entraîné à tout vent de doctrine, quand il y a une nouvelle idée qui arrive, mais d'être suffisamment enraciné en Christ pour ne pas être ébranlé à la moindre occasion. Et l'Église aujourd'hui a besoin de travailler à sa maturité. L'Église en général. Chaque chrétien a besoin de travailler à davantage de maturité. Une maturité qui soit évidemment physique, mais surtout spirituelle et émotionnelle. Parce que Dieu ne veut pas que nous restions des enfants, des assistés. Il nous appelle à la liberté. Il nous appelle aussi à la responsabilité. D'autant plus que nous vivons dans un monde qui ne connaît pas Dieu, qui rejette petit à petit toutes les valeurs qui viennent de lui. Avant, on pouvait dire encore, il y a des valeurs communes sur lesquelles, même avec des non-croyants, on peut s'entendre, on peut se comprendre. Je crois que c'est plus vrai aujourd'hui. En tout cas, ça l'est de moins en moins. Et donc, il nous faut être prêts. Prêt à vivre différemment, prêt à être visible et donc parfois moqué ou rejeté, prêt à la persécution s'il le faut. Ça ne fait pas plaisir, hein ? Mais c'est comme ça. Et pour être prêt, eh bien là aussi c'est évident, vous allez me dire, mais pour être prêt, il faut se préparer. Et pourtant, je le dis parce que nous vivons comme si rien ne devait jamais changer, comme si rien ne devait s'arrêter. Nous vivons parfois comme si ce monde nous était bénéfique, ce qui n'est pas le cas, comme si Jésus n'était pas mort et ressuscité, comme s'il ne devait pas revenir bientôt. Nous avons besoin de nous réveiller et nous préparer, nous entraîner. L'apôtre Paul parle d'une course, hein. Alors il y a eu les JO, donc... Voilà, on est dans cette ambiance-là de préparation et les sportifs s'entraînent pendant des années pour quelques secondes de course ou d'autre chose. Bon nombre de paraboles nous parlent de cette préparation. Alors, vous aurez sur le site hein, la prédication avec toutes les références bibliques. Par exemple, il y a la parabole des 10 vierges qui nous parle de préparation. Est-ce qu'on a pensé à l'huile ? La parabole du festin des noces. Est-ce qu'on a mis le bon habit ? On peut aussi penser aux exhortations à veiller et prier. Il y en a beaucoup. Ou encore celle qui nous parle de garder son cœur et tous les appels divers à la vigilance. Il n'y a qu'en fixant nos regards sur Dieu que nous pourrons faire ce travail. Mais Dieu, s'il nous offre le secours précieux de son Saint-Esprit, et il nous faut rendre grâce pour ça, ne fera pas pour autant le travail à notre place, et encore moins contre notre volonté. Il nous appartient de comprendre ces réalités et de saisir ce à quoi nous sommes appelés. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Pas juste pour faire beau, mais pour être une lampe qui brille au milieu des ténèbres de ce monde, pour éclairer ceux qui voudront bien se laisser attirer par Dieu. C'est un ministère que Dieu nous confie à tous, être une lumière. Mes amis, nous devons veiller sur nos cœurs, nous placer devant le Seigneur, nous exercer à la piété. Ça aussi, c'est perdu, c'est plus du tout à la mode, hein, s'exercer à la piété. Et pourtant, c'est primordial. Et marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi et qui, lui, va la mener à sa perfection. Alors restons attachés au Seigneur, cherchant à vivre avec intégrité, justice et vérité, afin de ne pas être ébranlés. Parce que si le monde va déjà mal aujourd'hui, il faut savoir qu'il ne va pas aller mieux demain. Le Seigneur nous précède et c'est ce qui fait que nous pouvons être confiants. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence en nous, ta présence au milieu de nous ce matin, mais aussi ta présence en chacun de nous. Nous te bénissons parce que tu as voulu habiter parmi nous, parce que Tu as placé ton Esprit Saint en nous pour qu'il nous guide, qu'il nous exhorte, qu'il nous reprenne. Et Seigneur, nous voulons avoir l'honnêteté, l'humilité de nous laisser reprendre par toi. Montre-nous, Seigneur, à chacun individuellement, les domaines sur lesquels tu veux nous voir travailler cette année. Montre-nous comment davantage être attaché à toi, comment davantage être proche de toi, comment nous entraîner, nous préparer, nous exercer. Donne-nous cette soif, Seigneur, d'être avec toi, d'être en ta présence, de lire ta parole. Oui, Seigneur, nous te prions que tu nous aides à te ressembler, que tu continues le travail de ton esprit en nous et que tu nous donnes encore une fois d'accorder nos volontés à la tienne. Nous te prions pour ce monde, Seigneur, qui a besoin d'entendre la vérité de ton évangile. Et nous te supplions de nous rendre capables d'apporter cette vérité. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.